Chapitre 29. Moulin de Noirat, Ambert, France. La neige grise tombait sans discontinuer sur l'eau du torrent. Cécile, sagement assise à table, fixait face à elle l'écran de la caméra de surveillance dirigée vers la rivière. Une bouteille de plastique à la dérive. Espoir dérisoire. Noël Archer, intarissable, parlait depuis 20 minutes de la théorie du déluge universel. Dans l'esprit fatigué de la chercheuse, le flux du courant de montagne, serpentant de pierre en pierre, se mélangeait au flot de paroles du trader. « 600 !» s'emportait Archer. « Plus de 600 légendes dans le monde racontent la même histoire, strictement la même. Pas seulement le déluge, mais les mêmes détails. Des dieux décident de punir les hommes désobéissants et immoraux, à l'exception d'un petit noyau de privilégiés, une famille initiée qui bâtit un navire pour sauver toutes les espèces d'animaux connus. Selon plus de la moitié de ces histoires, le bateau s'échoue en haut d'une montagne. La famille survit pour assurer la réconciliation avec les dieux qui fait suite au cataclysme. Vous ne me croyez pas? Vous voulez des exemples? »
Zach écoutait avec attention, mais Arsène Parella, surtout, ouvrait des yeux fascinés. Noël Archer reprit à peine sa respiration.
« Dans les récits fondateurs de l'Inde rassemblés dans le Mahabharata, Manu et 7 compagnons échappèrent au déluge grâce au dieu poisson Vishnu et échouèrent au sommet de l'Himavet, c'est-à-dire l'Himalaya. Selon la tradition perse, Yima et 1000 couples survécurent aux inondations. Dans l'Irlande pré-chrétienne, la reine Césaire et sa famille survécurent pendant 7 ans et demi à une crue océanique. Plus étonnant encore, les conquistadors espagnols furent stupéfaits de découvrir dans le Nouveau Monde des indigènes qui racontaient l'histoire de Noé. L'arche devient un canoë, un tronc d'arbre, un kayak. Selon la légende des Hurons, un grand-père installa sa famille et des animaux sur un radeau couvert, et les animaux se plaignirent tant de la promiscuité qu'à leur retour sur terre, ils furent privés de parole. Pour les Navarros, l'arche s'échoua sur le pic de San Francisco. Selon la légende inca, un lama parlant prédit le déluge. Dans la tradition aztèque, le bateau fut fait de bois de cyprès, proche du gopher de la Bible, et Coxcox, le Noé local, ne lâcha pas une colombe, mais un colibri qui rapporta une feuille d'arbre. Vous en voulez encore? Autre continent, même légende. Pour les aborigènes, le déluge australien fut provoqué par un dieu grenouille, qui, ayant bu les eaux de la terre, les recracha brusquement. En Chine, Noé se nomme Fuxi, et les hommes y furent punis pour s'être rebellés contre les grands dieux dans un désordre cosmique qui provoqua un immense tsunami. En Afrique, chez les Maasai, la fin du déluge fut annoncée par 4 arcs-en-ciel.
Archer continua à exalter devant son auditoire captivé.
« Cela ne vous suffit pas? Attendez, je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire la plus sidérante, celle de l'anglais George Smith, un archéologue amateur qui déchiffra en 1872, à la barbe de tous les scientifiques, les tablettes assyriennes de Ninive. Savez-vous ce que racontaient ces tablettes, qui sont considérées comme le plus vieux récit de l'humanité ?»
Il ne laissa à personne le soin de répondre.
L'épopée de Gilgamesh. Un récit sumérien en tout point comparable à celui de Noé, dans lequel on retrouve au détail près tous les épisodes de l'Arche de Noé. Le lâcher de colombes, le rameau d'olivier, l'échouage sur la montagne, plusieurs millénaires avant que le récit biblique de Noé ne soit rédigé.
Arsène Parella dévora 3 graines et parvint enfin à couper le biotrader.
Tout esprit instruit sait aujourd'hui que la Bible n'est qu'un récit qui a puisé à de multiples traditions écrites et orales. Sans aucun doute, l'histoire juive de Noé fut inspirée de l'histoire sumérienne antérieure, celle de Gilgamesh. Justement, rebondit Noël Archer, l'histoire de Noé est inspirée de la tradition sumérienne, mais également des traditions chinoises et africaines et péruviennes et indiennes. Comment expliquer l'inexplicable ? Peut-on imaginer que ces légendes soient nées de simples inondations en Mésopotamie et que leurs récits se soient diffusés ensuite, jusqu'en Australie ou en Alaska? C'est scientifiquement impossible, n'est-ce pas? Reste alors une seconde hypothèse, la seule vraisemblable au fond. Ces légendes sont la mémoire sur tous les continents d'un cataclysme universel. Les pistes scientifiques crédibles ne manquent pas. Météorites, changement d'orbite de la Terre, éruptions solaires, réchauffement, fonte des glaces, tout cela ne vous rappelle rien?
Zaki Kabi sourit avant de répondre.
Noël, tout ce que tu racontes, déluge, cataclysme, inondation, ne fait qu'apporter de l'eau à mon arche. Restons sérieux. Je veux bien, à la limite, qu'un tel déluge universel ait englouti une île. Appelez-la l'Atlantide, si vous y tenez. Mais de là à soulever un bateau à plus de 5000 mètres...
Le biotrader était de plus en plus excité.
Nos hôtes glaciologues pourront le confirmer. Même si toutes les glaces de la Terre fondaient, le niveau de la mer ne s'élèverait pas de plus de quelques dizaines de mètres. Non, ce qui importe dans les récits anciens du déluge, ce n'est pas la bouillie mystique qu'en ont tiré toutes les religions du monde, mais la valeur d'exemplarité de cette histoire. L'inconscience des hommes, la terre qui se venge, la condamnation de l'humanité à l'exception de quelques justes. Vous comprendrez ce que...
Cécile sembla se réveiller brusquement. Les trois hommes sursautèrent au son de la voix de la chercheuse. Le déluge, l'eau qui déferle, le traumatisme des populations locales, je veux bien, admettons. Un changement climatique planétaire qui fait naître partout le même type de récit mythique, pourquoi pas après tout ? En revanche, vos histoires de poignées d'hommes et d'animaux sauvés, se réfugiant sur une coque de noix, la même de la Chine aux Incas, ça ne colle pas avec le reste. Pourquoi trier les animaux pour en sauver certains ? C'est stupide.
C'est ce que je fais pourtant, se défendit Archer.
Non, vous les élevez, vous les multipliez. Dans les légendes diluviennes que vous nous avez racontées, c'est l'inverse. Les animaux sont tous détruits, délibérément sacrifiés par des dieux en colère. Tous, sauf quelques-uns. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Elle est là, pas ailleurs, l'énigme.
Zach regarda étrangement la chercheuse, à la fois troublée et impressionnée, comme si Cécile avait touché un point sensible. Sur l'instant, Cécile eut l'impression que Zach jouait la comédie, que toute cette quête légendaire n'était qu'un écran de fumée pour masquer autre chose, une vérité bien plus prosaïque, que Zach en savait beaucoup sur ces questions légendaires et que par le plus grand des hasards, elle avait visé juste.
Foutaise, pensa-t-elle la seconde suivante. Un seul objectif comptait. Se tirer d'ici. Mettre de la distance entre elle et ses détraqués.
Tous les animaux ne furent pas sauvés ?
Bafouilla Zach.
N'oubliez pas les licornes. Les licornes ne montèrent pas dans l'arche. Elles disparurent avec le déluge.
Écran de fumée, pensa encore Cécile. Baratin. Il noie le poisson avec ses licornes.
Hélas,
fit Noël Archer avec un sourire amusé,
hélas. Découvrir une licorne vivante, ce serait le Graal de n'importe quel biotrader, non ?
Il se leva.
En attendant, excusez-moi, c'est l'heure du repas de mes crotales.
Avant qu'il sorte, Cécile l'apostropha. Captez-vous Internet dans votre bunker ?
Bien entendu, comment sauver le monde aujourd'hui sans Internet ?
La chercheuse se tourna vers Zach. Retira ses lunettes en s'ébouriffant les cheveux, provocante. Si notre ravisseur l'autorise, j'aimerais bien me connecter sur un moteur de recherche pour vérifier certaines de ses affirmations, y compris ce qui concerne la prétendue secte contre laquelle il nous protégeait, ces invisibles néphilim. Trois hommes, gantés, armés de pinces, découpaient méticuleusement une bande d'environ un mètre de grillage barbelé. Il ne semblait pas avoir remarqué la caméra de surveillance dissimulée sous les combles du moulin. L'erreur aurait pu leur coûter cher. L'intrusion des trois hommes passait en direct sur l'un des six écrans de la salle de la roue. Heureusement pour eux, il n'y avait aucun spectateur. Zach, Arsène et Cécile tournaient le dos aux écrans de contrôle, le regard convergeant vers l'ordinateur de Noël Archer.